remember and say one.
Yeah,
one.
For the transcript, Monday, April 8th.
Pour le la transcription, lundi 8 avril 2013. La réunion des NSAC. La salle de l'auditorium.
And is the record?
Est-ce que nous avons commencé à enregistrer? Oui, oui, oui. Donc voilà, merci. Donc bonjour tout le monde, bienvenue à Cannes 46 à Beijing en Chine et vous êtes dans la session DNSSEC pour tout le monde, le guide du débutant. Ceux qui ne se sont pas approchés plus de nous, venez, rapprochez-vous parce que ça va être une session ludique et vous allez mieux voir et mieux entendre si vous êtes plus près. Je suis Judy Edlin, je suis avec ICANN. Je suis. Alors que nous allons de l'avant, il y aura des informations sur l'écran, sur tous les présentateurs. Je vais passer la parole à Dan Yok de la Internet Society, qui est notre animateur pour la soirée. Combien d'entre vous peuvent épeler DNSSEC? Oui, oui, c'est bon. Il y en a plusieurs d'entre vous. C'est bien, vous êtes là au bon endroit. C'est la session, une séance qui est là, qui est un peu une introduction. Nous allons parler de ce qu'est le DNSSEC, ce que cela résout, comment cela marche, comment cela fonctionne. Pour ceux qui veulent plus de détails, il y a une autre session qui sera mise en place mercredi et qui donnera beaucoup plus de détails sur... c'est un atelier de travail DNSSEC qui aura donc lieu mercredi avec beaucoup plus de détails. Aujourd'hui, on va juste parler sur ce qu'est le DNSSEC, quels sont les problèmes que cela résout. Voilà donc l'emploi du temps et l'ordre du jour pour cet après-midi. Voilà, nous sommes partout. Nous avons beaucoup de présentateurs. Je vais les présenter. J'ai Juan Camari, qui est de Google et qui va être un de nos présentateurs. Ross Mandy, de Sparta. Julie, qui s'est déjà introduite, présentée. Monsieur Ritchie et Jacques Petour, qui est là aussi. Nous avons aussi une autre personne qui va venir plus tard. Oui, nous avons quelqu'un qui est là au milieu de vous et qui va jouer un rôle diabolique dans notre petite présentation. Alors, je vais donc... Pourquoi est-ce que vous n'avancez pas la diapo? Nous avons tous... nous savons que DNSSEC a commencé avec l'ITF il y a une dizaine d'années. Nous avons une petite histoire plutôt alternative dont nous allons vous parler aujourd'hui. Nous allons commencer il y a 7000 ans. Disons que le DNSSEC a commencé quand nous avions Eguina. Eguina vivait dans une cave au bord du Grand Canyon et elle vivait là. De l'autre côté du canyon, il y avait Og. Og aussi vivait dans une cave, dans une grotte de l'autre côté du Grand Canyon. Voilà les deux qui sont là, mais ils ne se parlent pas souvent. C'est difficile de passer d'un côté à l'autre du canyon. C'est difficile d'accéder de l'autre côté. Donc, de temps en temps, ils descendent et ils remontent de l'autre côté. Et des fois, ils parlent, ils se disent, mais comment est-ce qu'on peut communiquer? Un jour, ils ont vu de la fumée qui est sortie, qui s'est dégagée de leur feu. Ils se sont dit, ah, on pourrait commencer à parler. Alors, ils ont commencé à faire des signaux de fumée. Donc, voilà, la communication a commencé. Mais malheureusement, quelqu'un d'autre est arrivé. Un autre homme préhistorique qui s'appelle Kaminski, qui a déménagé à côté, puis il s'est dit, moi aussi, je veux commencer à participer à la conversation. Lui aussi commence des signaux de fumée. D'un seul coup, vous avez Aguina d'un côté du canyon, et elle qui avait une bonne conversation avec Og, elles avaient une bonne conversation avec leurs propres signaux de fumée, ils savaient exactement comment ça marchait, tout ça. Ça marchait très bien. Et puis, cet autre homme préhistorique arrive, et puis maintenant, elle voit deux ensembles de signaux de fumée. Elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, voilà, il y avait un problème. Un jour, elle décide de descendre de sa falaise pour voir ce qui se passe et voir quel était le signaux qui arrivait de la part de Og, et sont allés voir tous les deux les sages du village. Et Diffy il s'est dit, tiens, j'ai une idée. Il est rentré dans sa grotte et il a trouvé là qu'il y avait un gros tas de sable bleu qui ne se voyait que dans la grotte de Og. Personne d'autre n'avait un tel sable bleu. Donc, ce qu'il a fait, il a mis du sable bleu dans le feu de Og et la fumée est devenue bleue. Alors maintenant, d'un seul coup, c'était facile pour Aguina. Elle regardait de l'autre côté du canyon, donc elle savait que la fumée bleue venait de Og. C'était les messages qui venaient de Og. Alors, quand Kaminski a essayé de faire ses signaux de fumée, mais ces signaux de fumée n'étaient pas bleus. Donc, Aguina s'est rendu compte qu'avec le bleu, elle avait la bonne conversation. En fait, à la fin, c'est comme ça qu'on peut résumer DNSSEC. C'est, à la fin du compte, c'est ce que DNSSEC fait. C'est qu'on s'assure que vous avez la bonne information pour savoir exactement que c'est c'est le message correct que vous voulez obtenir. Donc maintenant, je vais passer la parole à Warren pour qu'il vous explique comment ça marche vraiment. De façon à comprendre comment DNSSEC fonctionne. Tout le monde m'entend bien, oui. Il faut d'abord comprendre comment le DNS travaille, fonctionne. Qui a une bonne compréhension du DNS? Quelques-uns d'entre vous, mais pas tout le monde. En premier, qu'est-ce que le DNS et qu'est-ce que cela fait? Le DNS convertit les noms, les mots comme www.quelque chose ça commence à la racine du DNS et ensuite chaque niveau demande quelle est l'adresse IP de telle adresse www, tel. Ce niveau ne sait pas vraiment, donc cela envoie le message au prochain niveau. Donc si vous cherchez www.bigbank.com, on dit, ah oui, je voudrais l'adresse de bigbank.com. Est-ce que vous pouvez me le dire? La racine dit non, je ne sais pas. Donc, ce que je sais, c'est que le .com vient, d'où le .com vient. Vous devez demander à eux, à .com. Ils vont vous donner la réponse. On va voir vers le .com. Ils disent, ah, je cherche www.bigbank.com. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est? .com dit, ah non, je ne sais pas ce que c'est. Mais la prochaine chose à faire, ce serait, je connais bigbank.com, je connais cette adresse. Donc, vous pourriez peut-être aller demander là. Donc, la personne retourne bigbank.com. Et dit, ah, hey, je voudrais l'adresse IP pour www.bigbank.com. Et le serveur de Big Bang dit, ah, je connais ça. La réponse est point. Ainsi, votre ordinateur dit, et votre ordinateur peut connecter. En fait, il y a un milieu, quelqu'un au milieu.
et qui essaie d'attaquer notre conversation.
Je pense peut-être que leur réunion est plus intéressante que la nôtre. Donc, à la base, pour résumer, chaque niveau de DNS vous donne les références d'autres niveaux. Chaque niveau vous délègue vers le prochain niveau. Chaque étape. Excusez-nous, mais nous avons un problème d'audio. Donc, il y a des noms qui sont plus populaires que d'autres, comme par exemple www.google.com ou yahoo.com ou www. Certains. Excusez-nous. Toutes ces questions commencent. Il faut. À la base, ça garde les informations dans le cache et la prochaine fois que quelqu'un pose la question, la réponse est déjà là. Et bien sûr, ce sont beaucoup d'observations à absorber, d'informations à absorber très rapidement. Puis les autres personnes qui parlent sur la ligne, cela ne nous aide pas. Donc, nous allons faire un petit sketch pour démontrer cela. Nous avons une autre personne qui parle à travers l'audio. Donc, nous avons beaucoup de mal à entendre les intervenants. Nous sommes désolés.
Okay. We'll pause until, because these people on this side can't hear a darn thing. Okay, just getting that.
Hello.
Nous avons des interférences, nous allons nous en occuper et en attendant, nous allons faire une pause et nos acteurs vont pouvoir se déguiser. C'est difficile, difficile. Je pense que mon costume était prévu pour quelqu'un, dit Warren, quelqu'un qui est un peu plus maigre que moi.
Yes.
We're still pausing.
Nous sommes toujours en pause là. En attente que le problème soit résolu, le problème audio soit résolu.
Can we just unplug this speaker over here?
Est-ce qu'on peut débrancher le speaker sur le côté de la salle?
Okay, thank you.
Merci beaucoup. Nous allons donc continuer. Okay. Nous allons nous amuser un peu. C'est difficile de décrire le DNS et le DNSSEC. C'est assez technique. C'est un sujet assez technique. Nous avons des experts qui se distinguent ici et qui vont devenir des acteurs. Nous allons performer un petit sketch en vous montrant les transactions DNSSEC. Voilà donc l'acte numéro 1. Je suis l'utilisateur Joe. Et nous avons ici mon ISP. Et nous avons la racine, le .com et bigbang.com. Dans ce premier acte de cette pièce, je vais être l'utilisateur final, Joe. Et je vais faire mes affaires bancaires en ligne. Je vais m'asseoir à mon bureau, payer quelques factures. Monsieur ISP, je voudrais aller à www.bigbang.com. Merci, mais je ne sais pas où le www.bigbang.com est. Donc, ce que je vais faire, je vais aller voir la route, la racine, et je vais lui demander où c'est. Merci de me demander, mais je ne sais pas où c'est. Est-ce que vous pourriez demander à .com, à .1, .1, .1, .1? bigbang.com. Vous savez où est bigbang.com, www.bigbang.com? Non, je ne sais pas, mais demandez donc à bigbang.com. C'est un 2.2.2. Big Bang. Je cherche www.bigbang.com. Ah oui, je sais, .bank.com. C'est à 2.2.2.3. Merci. Je vais donc donner la réponse à l'utilisateur final, M. Joe, et je vais dire 2.2.2.3. Merci, M. l'ISP. Maintenant, je peux faire mes affaires bancaires. Mon ordinateur sait que bigbang.com est à l'adresse 2.2.2.3. Et je peux vraiment aller payer toutes mes factures.
Sadly enough, nobody shouted off.
Personne n'a crié encore dans la salle. C'est dommage. Peut-être la prochaine fois. Vous vous demandez pour peut-être quelle était cette présentation de Dan. Iguana était donc l'utilisateur et Og est le serveur. Quand le Kamensky arrive et qu'il envoie des signaux lui aussi, Aguina, elle est confuse, elle ne sait pas quel message recevoir. Donc ce que DNSSEC fait, c'est rajouter la fumée bleue au DNS. Donc pourquoi est-ce nécessaire? Quand le DNS a été fait au départ, il y avait des problèmes. L'Internet était plus petit et plus sécurisé, il y avait moins besoin de sécurité. La plupart du temps, les gens connaissaient d'autres personnes, ils envoyaient des messages les uns les autres. Il n'y avait pas de gens d'action malicieuse entre les deux. Spoofing, il fallait donc protéger contre le spoofing. Comme les gens qui prétendent être quelqu'un d'autre, comme Esky dans notre petit sketch. Le serveur de nom va mettre cette information en cache. DNSSEC résout cela à travers des signatures numériques. En fait, quand vous demandez à un serveur capable de DNSSEC, la réponse, ça devrait être le prochain serveur sur la chaîne ou la réponse elle-même. Et puisque cette réponse est signée, vous pouvez le croire. Résoudre quel nombre de noms de serveurs de la racine, la clé de la racine. Quelle est la clé de la racine? Cela construit une chaîne de confiance. Donc, quand la racine dit qu'elle ne sait pas où l'adresse est, mais je sais où .com est. Donc, je signe ma réponse et ainsi vous pouvez le croire que le nom de serveur, quand vous demandez où le www.bigbang est, que le .com sait, dit qu'il ne sait pas, mais il va dire je sais où est le serveur de nom de bigbang.com. Donc la chaîne ainsi se complète. Est-ce qu'on peut passer cette diapo ou est-ce qu'on peut faire le sketch au lieu de la diapo? Non, la prochaine est pour vous. Donc, c'est encore plus complexe que juste la description du DNS. Donc, j'espère que le prochain sketch va nous aider à démontrer comment tout cela fonctionne. Acte 2. Deuxième acte de la pièce. Le DNS, ce sera illustré, ça a été illustré dans le premier acte. Et ce que Warren présentait, comment le DNS normalement fonctionne. Le DNS est insécurisé. Et ce que l'on va démontrer, c'est l'attaque du milieu. C'est pour ça que le DNS avait été développé. Nous allons répéter ce que nous avons fait tout à l'heure. Nous allons faire encore je vais aller faire payer ma facture encore et faire la même chose. Et on va voir. Encore une fois, moi, l'utilisateur, Joe, j'ai des factures à payer. Je voudrais aller voir Monsieur Lightspeed. Je voudrais aller voir www.bigband.com. Merci, je ne sais pas où c'est, mais je vais demander la racine. Merci de me demander, mais je ne sais pas du tout où aller parler à .com, à 1.1.1.1. Oui, oh, ben, je vais aller là-bas. .com. Vous savez où se trouve Big Bang? Je sais, je ne sais pas, mais je sais que ça se trouve à 2.2.2.2. Je vais demander donc. Alors, Big Bang, bonjour. Vous avez l'adresse de .bigbang. Oh oui, je l'ai. L'adresse pour bigbang.com est à 6.6.6.6. Merveilleux, merci beaucoup. Et voilà, Monsieur Joe, l'utilisateur. L'adresse est 6.6.6.6. Merci, Monsieur l'ASP. Maintenant, je peux aller faire payer mes factures à .bigbang.com et j'espère que personne cherche dans mes poches. Voilà, donc c'était le premier acte, l'acte numéro 2, le deuxième acte. Vous voyez que Docteur Diabolique est là et a injecté une réponse avant que Big Bang puisse répondre lui-même. C'est comme ça que cela marche. Maintenant, ce qu'on va faire, comment on met en place le DNSSEC? Une des choses que vous avez dû voir, c'est qu'il y a deux sortes de serveurs. Il y a les informations de publication, voilà, ces gens-là. Et aussi les informations de lecture, Monsieur l'ISP qui lit les informations. Ce qu'on doit faire, c'est trouver une façon pour eux d'identifier l'information. Donc j'ai ce qu'on appelle une chaîne de confiance. Et c'est ce que le DNS, le signature DNSSEC est, ce que cela représente. Oui, alors, je vais être signé. Voilà ma signature. Bonjour, Madame Laracine. Je voudrais faire ce truc de DNSSEC avec vous. Voilà mon information. Comme ça, vous pouvez savoir que c'est vraiment moi. Et je vous confirme, voilà votre étoile. Je confirme que c'est vous. Hé, hey, monsieur, comme j'ai signé ma zone. Je suis DNSSEC et je suis capable en tant que bigbang.com et voilà ma carte qui établit cela. Je confirme l'information. Oh, bien. OK. Alors, voilà, ce qui s'est passé là-bas, c'est qu'ils ont développé ce qu'on appelle la chaîne de confiance. Ils se sont authentifiés les uns les autres. Il y aurait donc une signature numérique qui sera passée entre les uns et les autres. Donc, maintenant, avec tout le monde est signé, donc nous allons répéter l'attaque de la personne, du mec au milieu, de l'homme du milieu ou de la personne. Monsieur ISP, je voudrais aller à www.bigbang.com. Parfait. Je ne sais pas où c'est. Mais je vais demander la racine. Et je sais aussi que j'ai cette clé-là qui valide, qui me dit que c'est vraiment la racine. Je ne sais pas où Big Bang est, mais je vais vous dire que vous pouvez aller au serveur .com, 1.1.1.1. Et voilà sa signature. Oh, ça a l'air. C'est bon. Ça a l'air d'être correct, la racine. Je voudrais aller à www.bigbang.com. Vous savez où c'est? En fait, je ne sais pas, mais je sais où est .bigbang.com. Et je peux signer cette réponse pour vous. Authentifier, disons, cette réponse. Oh, merci. Oh, le t-shirt est trop petit. Oh bon, c'est une bonne information. Big Bang, je voudrais l'adresse pour .bigbang.com. Ah oui, l'adresse pour bigbang.com est à 6.6.6.6. Hey, c'est pas une bonne réponse. C'est pas validé. Partez d'ici. Dégagez. Dégagez. Ah, je suis vraiment content que vous ayez posé la question. Vous avez posé la question. Je suis big.bigpunk.com. J'ai le www.bigpunk.com 2.2.2.3 et c'est déjà signé, authentifié. Ah oui, ça c'est bon. Merci. Voilà Cho, l'utilisateur. L'adresse est 2.2.2.3 et c'est validé. Oh, merci, monsieur l'ASP. Je peux payer mes factures. Je n'ai pas besoin de me tracasser, de me faire induire en erreur. Oh, bravo, messieurs. On a vraiment fait beaucoup d'entraînement, comme vous voyez. Maintenant, je pense que je vais passer la parole à Voss pour un exemple de la mise en place du DNSSEC et un guide des options de déploiement.
Tu m'entends?
Qu'est-ce que tu veux? Non, j'ai pas besoin.
C'est toujours excitant de faire cela. Comme vous voyez, nous nous amusons beaucoup. Et j'espère que ça aide à expliquer les réactivités qui sont incluses dans le DNSSEC. Et alors que, quand vous regardez vraiment les détails spécifiques, il y a beaucoup de choses complexes qui doivent être prises en compte et qui prennent place. Mais quand vous prenez du recul et vous dites que, oh, OK, qu'est-ce que c'est vraiment que qu'est-ce que je peux faire pour commencer à mettre en place le DNSSEC? La réponse, dans tous les cas, ou pratiquement tous les cas, cela dépend de ce que vous faites avec le DNS. Si vous êtes un opérateur de DNS qui fait vraiment qui prend DNS en tant que focus de leur business, sur leur point principal de leur business, si vous êtes un opérateur de registre ou si vous êtes un ASB le plus important ou un fournisseur de serveurs ou registraire. Si vous opérez beaucoup de choses au niveau DNS, il y a plusieurs endroits que vous pouvez choisir pour commencer. Si vous êtes une entreprise assez grande, avec beaucoup d'activités, il y a un ensemble de choses que vous pouvez faire, mais qui vont peut-être être différentes. Ce que vous avez besoin de faire, c'est d'examiner ce que le DNSSEC fait maintenant, comment, les choses que vous faites au niveau DNS et comment, de quelles différentes pièces vous avez besoin pour mettre en place le DNSSEC. C'est ce que je vais essayer de couvrir aujourd'hui. Donc, si vous êtes, par exemple, un registre avec un gros TLD, des opérations importantes de TLD, vous avez probablement un personnel DNS professionnel. Dans ce cas-là, aujourd'hui, vous faites probablement essentiellement toutes vos activités DNS avec votre propre personnel. Vous avez probablement des gens qui connaissent, qui sont experts, qui sont bien qualifiés. Si vous êtes un autre genre d'entreprise qui fait des choses importantes avec le DNS, mais peut-être qui délocalise un peu. Vous en avez des choses qui sont faites par des fournisseurs externes qui font le DNS pour vous et que vous voulez travailler avec ces fournisseurs externes. Peut-être ils ne peuvent pas faire le DNSSEC parce que beaucoup d'entre eux commencent juste à travailler dans le processus et certains n'ont pas encore commencé tout à fait. Si vous êtes une activité qui fait des choses sur le côté, en externe, le DNS, ce n'est pas vraiment la partie importante de votre business, mais c'est important votre business, mais ce n'est pas votre focus le plus important. Peut-être vous pourrez faire cela à côté, ça ne prend pas. Vous pouvez peut-être faire ça en externe. Donc, quelle que soit la manière que vous travaillez aujourd'hui, la première étape, c'est de voir ce que vous faites avec le DNS aujourd'hui. Si vous êtes comme Jacques ici et vous êtes un USP, une des choses préférées, un exemple préféré pour moi, c'est un groupe qui, par exemple, qui a fait beaucoup avec le CDS aux États-Unis, c'est Comcast. Aux États-Unis, ça s'appelle Comcast. C'est un fournisseur d'ISP très important. Et tous leurs noms de serveurs qui sont mis en place et ont le DNSSEC aujourd'hui. Donc, il y a les choses qu'ils ont fait pour pour faire marcher le DNSSEC pour leurs clients, vis-à-vis de leurs clients, sont un peu différents de ce que, par exemple, VeriSign a fait, qui est l'opérateur des .com et .net. Quand Afilias a aussi signé authentifier.org, ce sont toutes les étapes. Il faut vraiment voir comment ce que vous faites et comment vous faites. Comment vous faites les choses. Si vous êtes une entreprise, je ne me rappelle plus, mais ma vision n'est plus aussi bonne. Je vais regarder sur la diapo. HP. Par exemple, HP. Grande entreprise, grande compagnie. Beaucoup d'expertise de DNS font toutes leurs opérations DNS en interne, mais ils en font beaucoup. Ils sont sous HP.com, en dessous le .com et ils sont déjà en place. Ils peuvent signer, authentifier leurs zones et toutes les zones qu'ils administrent qu'ils chapeautent, disons.
Et peu importe la manière dans laquelle vous faites DNS aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de vous illustrer maintenant, c'est vous devez voir ce qui suit. Quels sont les éléments successifs? Si vous êtes une entreprise, vous allez opérer ou fournir des services récursifs et des serveurs autoritaires de nom, les ISP, pour votre propre zone. Donc, vous pouvez voir comment authentifier par signature votre zone et c'est la chose la plus efficace pour commencer si vous êtes opérateur avec des services autoritaires de nom. Vous signez la zone. Ne vous inquiétez pas si les gens font la validation DNSSEC de ceci, mais signez votre zone et accoutumez-vous à faire fonctionner la partie DNS parce qu'il y a des changements dans le DNS normal. Les changements qui doivent se produire sont, c'est ce que j'appelle ma glissoire DNS. À gauche, c'est ce qu'on appelle souvent la phase d'alimentation. Que vous soyez une entreprise, un registraire ou un CCTLD, toutes ces choses s'appliquent pour toutes les zones. Et de l'autre côté, c'est l'endroit où on met les informations. Si vous êtes une entreprise, tout a lieu au sein de votre organisation. Mais si vous traitez vos connexions avec le registraire, par exemple, HP interagit avec le registraire qu'ils utilisent pour arriver à .com. Ils doivent échanger des informations avec le registraire afin que l'information puisse être placée au sommet du triangle. Et ensuite, c'est consommé, distribué à droite. Si vous regardez les détails, il y a beaucoup de protagonistes qui interviennent. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est examiner les pièces DNS. Savez-vous où vous obtenez vos noms DNS et est-ce que vous savez qui opère les serveurs de noms DNS pour votre nom? Dans DNSSEC, dans la planification DNSSEC, de déterminer l'origine de toutes les pièces du DNS est la première étape, le plus important qu'il faille faire. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une autre manière d'illustrer ce que je viens de dire. Les informations sont saisies et ça rentre dans le serveur autoritaire et ça a été demandé, requis par l'utilisateur, M. Joe. Ensuite, cela peut être présenté simplement ou complexe, de manière complexe. Si vous regardez les deux rangées du haut, il y a les serveurs de nom, de racines de nom racines. Il y a 13 lettres et 13 en bas. Ensuite, la prochaine page, ça vous donne une idée de combien de résolutions, de requêtes, de consultations de noms a lieu. Cela peut se produire. C'est un diagramme effectué par des trousses à outils que nous offrons pour les Open Source World, pour www.cdns.com. Il y avait plus de 100 consultations. Mais maintenant, c'est plus de 100, c'est 120 sur cnn.com. Ah, j'ai bien fait. Donc, j'avais pas le beau graphique, mais c'est ce que le cnn.com fait maintenant lorsque vous faites une requête, une consultation. Donc, la donnée de zone est ce qui est le plus important. C'est ce qu'on essaie de montrer. C'est l'adresse IP pour www.bigbang.com. C'est pas 6.6.6. C'est vraiment 2.2.2.3. Et c'est vraiment ce qui est important. C'est ce que fait DNS pour vous. Il vous fournit la base cryptographique technique qu'un usager de DNS, d'information DNS, peut prendre pour prendre cette décision pour résoudre cette requête. Donc, vous voyez le triangle à nouveau, la partie en vert, c'est là où le DNSSEC fonctionne. Lorsque vous analysez la partie gauche, c'est la saisie des informations, c'est l'approvisionnement. Si vous êtes un usager de nom et vous allez enregistrer, l'alimentation se fait à ce niveau-là. Une fois qu'il est introduit dans un serveur de nom et qu'il est signé, ce sont les informations circulantes, des requêtes, des consultations, le trafic. Il faut faire attention du point de vue de l'alimentation, bien sûr, mais DNSSEC résolue l'authenticité de sources et les défis liés à l'intégrité des données pour savoir que c'est la bonne information d'un bon endroit, qui vient du bon endroit pour vos informations DNS. Si vous faites DNSSEC de la même façon que vous faites le DNS, c'est la bonne manière de procéder. Faites tout ce que vous faites avec le DNS. N'essayez pas de jeter les opérations DNS et de remplacer quelque chose par quelque chose de tout nouveau, parce que vous allez ajouter de la complexité, parce que vous devez vous assurer que les opérations DNS fonctionnent avant que le DNSSEC fonctionne. Et si vous regardez, c'est notre illustration avec quelques flèches additionnelles et avec une approche directe. Cela montre les endroits additionnels où il faut faire mettre des obstacles additionnels pour assurer l'authentification, pour que le consommateur des données DNS sache que cela vient du bon endroit et n'a pas été intercepté pendant qu'il filait le long du câble. Lorsque vous cherchez à étendre vos opérations DNS, il faut analyser ce genre de choses, les pièces qui placent les informations dans le DNS et les pièces qui tirent les informations hors de DNS. Et il y a davantage de termes dans cette diapositive qu'il en faut vraiment, mais on peut tout lire, mais je vais tout simplement passer à la prochaine diapositive. Si vos opérations est une opération où les produits logiciels et équipements sont fournis par différentes personnes, vous devez aller au vendeur ou les fournisseurs de services qui font les activités se rapportent en DNS. Et si vous dites je veux faire le DNSSEC, est-ce que vous pouvez m'aider à faire du DNSSEC? S'ils ne peuvent pas vous aider à faire du DNSSEC, c'est là qu'il faut commencer à voir comment que le si quel,
quelqu'un vous fournit le DNS, qui puisse faire le DNSSEC, que vous soyez une entreprise, un grand fournisseur ou un opérateur DNS professionnel, il faut vous assurer que vos fournisseurs des produits et des services vont l'accepter. Et c'est tout pour la présentation formelle. On veut vraiment que vous posiez et commentiez posez des questions et commentez sur ce que vous avez vu. S'il y a des choses que vous pensez qui étaient complètement stupides, dites-nous et on va essayer de l'expliquer, mais on veut vraiment répondre à vos questions et c'est vraiment pour nous sommes là pour répondre à vos questions. Vous avez des gens avec des microphones. Ahmad du Pakistan. Ma question est la suivante. Jusqu'à quel point ça va ralentir le trafic de l'Internet? Y aura-t-il une influence? En fait, pas du tout. Vous avez les réponses signées. Lorsque vous faites les requêtes normales, les réponses sont légèrement plus grandes. Mais ce sont des petites, très, très, très petites quantités. Il y a un petit traitement supplémentaire, mais lorsque les gens ont placé des seuils de référence, et ça, c'est seulement pour le DNS, et le reste n'est pas affecté, donc c'est vraiment négligeable. Une chose, nous avons de bonnes études là-dessus, c'est sur l'impact des fournisseurs de serveurs autoritaires. Une analyse efficace a été effectuée par Wright quelques années auparavant. C'est disponible en ligne, beaucoup de formules et de détails pour une zone individuelle. Vous pouvez vous saisir de ce rapport. Je ne me rappelle pas du chiffre, mais c'est accessible. Saisissez vos noms et voyez ce que ça va faire pour votre environnement particulier en termes de services de noms autoritaires. On n'a pas le détail des données qui soient disponibles sur les résolveurs de validation. Est-ce que vous avez entendu parler des types du DNS Google? Pas de données publiques, non? Et ce sont des choses qui sont perdues facilement pendant qu'on fait la mesure. Il y a des groupes qui essaient de mesurer la validation et il n'y a pas d'impact significatif selon eux. Lyndall McDonald, je suis du programme de Boursier. Est-ce que c'est coûteux de mettre en œuvre DNSSEC? Ça dépend de la dimension, taille de votre zone. Jacques vient de passer en revue certains processus avec le CA. Il peut en parler, mais Ezer également, mais ça dépend du niveau de sécurité, de précaution que vous voulez intégrer dans tout l'environnement. Il y a une large gamme de choses qui peuvent être faites, la signature, les différentes pièces avec des sources ouvertes, avec des coûts minimaux. D'autres ont fait des environnements à haute échelle, avec inscription de clés et des pièces de verrouillage qui coûtent très cher, donc ça peut vraiment varier. Ça dépend de vos exigences en matière de sécurité, si vous êtes un CCTLD ou un opérateur ou une entreprise. Cela définit ce que vous allez. Ça peut aller de zéro avec tous les logiciels sources ouvertes à jusqu'à très coûteux. Il y a plusieurs CCTLD qui l'ont fait presque pour $0. Il y a des manières de voir que vous le opérez de manière stable, mais même les CCTLD, qui sont des environnements relativement complexes, ont réussi à le faire avec un type et quelques jours de. Si vous êtes une organisation pour vos propres buts, vous pouvez le faire presque gratuitement. Et pour aller du point de vue du côté organisationnel, beaucoup des noms des serveurs autoritaires, du côté solution également, le code est là, et d'allumer le DNSSEC, il suffit d'ajouter une ligne à un fichier de configuration ou bien de cocher une boîte. Microsoft, Windows Server, si vous prenez ces solutionneurs de validation, tout est déjà là, surtout pour du côté validation. Une chose que j'aimerais ajouter en particulier pour cette question, c'est que, comme j'avais dit pendant la présentation, c'est vraiment les données, le contenu de la zone qui est importante. C'est vraiment ce que vous essayez de protéger. Donc, vous devriez étendre les efforts qui soient raisonnablement équivalents à la manière dont vous protégez les données dans la zone elle-même. Donc, si vous avez un processus lâche pour que les gens prennent et retirent des noms dans votre zone, effectuent les changements qui n'ont pas beaucoup d'attention. Il y a même une vérification minimale. On ne veut pas dépenser trop d'argent sur DNSSEC parce que vous dépensez davantage d'argent sur la partie crypto que pour la protection du contenu.
Leon from the fellowship program as well, and I got two questions. The first one is.
Deux questions. Si on utilise le service de DNS public de Google, est-ce que ça me donne un certificat garanti ou comment est-ce que un couple de domaines puisse contribuer au DNSSEC? Du côté Google. Warren au micro. Google vient juste de commencer à faire du DNSSEC sur les solutionneurs Google. Mais c'est encore dans un lancement qui va se passer très, très lentement. C'est pour les gens qui ont demandé ça spécifiquement. Dans le futur, bientôt, peut-être très très bientôt, nous planifions de lancer cela pour tout le monde. Donc si vous demandez à 8.8.8.8, comme cela vous donnera automatiquement une réponse DNSSEC. C'est un peu comme ce que Comcast fait déjà. S'il y a une zone spécialement très large, très grande, très comme .gov, où il y a un problème DNSSEC, où il y a eu une erreur accidentelle. Comcast, par exemple, a mis en place une encre négative, ce qu'il appelle une encre négative, une façon de vérifier pourquoi la validation n'est pas faite. À Google, nous faisons la même chose. Il est clair que la raison pour laquelle la zone ne fonctionne pas est à cause d'une erreur temporaire, qu'il y a une une possibilité de recevoir une réponse, même si ce n'est pas sécurisé par DNSSEC. Je vais parler de ce que les parties privées peuvent faire, les utilisateurs. Si vous avez un domaine et qu'il est signé, cela dépend bien. Bien sûr, il y a deux facteurs qui rentrent en cause. Des 300 et quelques CCTMD et domaines génériques, il n'y en a qu'une centaine qui sont à peu près signés. Si vous faites partie de ces 100, votre domaine peut être signé, c'est la bonne nouvelle. Cela peut fonctionner. Si vous n'en faites pas partie, vous devez voir si votre registraire va soutenir le DNSSEC, va supporter le DNSSEC. Dans certains cas, il s'agit de juste cocher une boîte et de dire, voilà, utiliser le DNSSEC. Non, il y a des gens qui le font, il y a des registraires qui le font automatiquement. .dr, par exemple, le font pour beaucoup dans leur région et certains en Hollande et en République tchèque aussi. Si vous utilisez un .com, un .net, vous devez utiliser un registraire qui le fait déjà. Il y en a certains qui le font déjà. ICANN a un site, une page sur leur site qui donne une liste des registraires qui soutiennent, qui supportent le DNSSEC jusqu'à présent. Vous pouvez donc aller voir dans certains cas, moi, je suis allée personnellement. J'ai demandé à mon propre registraire quand est-ce que je vais obtenir telle ou telle chose. Et il m'est arrivé de bouger, d'aller vers un autre domaine parce que je voulais qu'il y ait une authentification. J'ai dû aller faire bouger, passer mon domaine sur un autre registraire pour que cela puisse fonctionner. Du côté du registre, cela dépend comment vous voulez vous inclure dans le processus, ce que vous voulez faire, comment vous êtes expert. Il y a des outils. J'en ai un sur mon Mac, par exemple. C'est ce qui s'appelle une Trigger DNSSEC, ce qui me permet de valider et de solutionner. Un solutionneur validé sur mon système. Je puis dire, par exemple, l'histoire que nous a le sketch que nous avons fait ici. C'est une des choses que je peux vous configurer. Quand je fais marcher ce logiciel sur mon système, ça me demandera à Google. Vous pouvez soit signer votre domaine du côté signature ou du côté validation. Vous pouvez voir si votre ISP fournit cela, s'ils supportent DNSSEC. S'ils ne le font pas, vous pouvez leur demander et vous pouvez installer le logiciel qui correspond. Il y a plusieurs. Il y avait Chrome et Safari aussi et IE qui fournit des signaux de validation aussi. Pardon. Julien, au micro. Nous avons une file. Il y a quelqu'un. Il y a monsieur là-bas, un monsieur ici. J'ai vu un autre doigt qui s'est levé aussi là-bas. Nous avons 4 personnes dans la file d'attente pour des questions. Une addition en plus. Une addition. Si vous opérez votre propre nom, le nom du serveur pour votre propre nom, et que vous n'avez pas une chaîne jusqu'à la racine, vous pouvez toujours signer. Les autres ne pourront pas valider pour vous. Vous pouvez faire cela vous-même. Vous pouvez apprendre et incorporer à l'intérieur de vos process, que vous ayez une chaîne jusqu'à la racine ou pas. Il y a un nombre de capacités. DNSSEC Trigger, c'est une très bonne. Mercredi, vous en entendrez plus parler. Vous verrez le moteur de recherche que nous avons. Il y a donc des outils aujourd'hui sur le marché pour faire pour générer le DNSSEC. Et si, une fois que vous les avez, essayez de les utiliser et donner du suivi aux développeurs de ces choses. Excusez-nous. Je voulais juste dire que les formulaires, les feuillets que nous avons distribués ont des URL dessus inscrits. Donc, regardez, allez voir ça. Je m'appelle Jean Plume, je travaille pour DNS Point en Chine. J'ai 2 questions. La première, c'est est-ce que vous avez des dates pour montrer combien de. Des données qui montrent combien de serveurs ou le taux de serveurs qui ont employé le DNSSEC? Et la deuxième question, c'est si le serveur DNS est contrôlé par une encre, est-ce que le DNSSEC peut toujours être utilisé dans ces situations? Merci. Donc, répondre à votre première question, il y a nombreuses données, points de données. La chose la plus simple, ce serait de voir si le déploiement dans le CCTLD, dans le monde CCTLD, il y a une carte qui montre le déploiement de DNSSEC sur le site 360, qui montrera donc dans l'avenir combien de CCTLD ont été signés, authentifiés. Il y a des comptes qui ont été faits autrement, mais celui-là est certainement le plus visible, la meilleure manière d'illustrer la croissance jusqu'à présent. En voyant la zone CCTLD, ceux qui ont été signés, cela peut vous donner une idée de la croissance. Si un hacker contrôle un serveur de nom, avec le DNSSEC, qu'est-ce qui peut être
actuellement authentifié pour l'utilisateur final qui utilise l'information de DNS. C'est le donnée elle-même, pas d'où ces données viennent. Dans, c'est pas la machine qui envoie les bits, mais d'où elle vient, l'origine. C'est la personne qui l'a originé dans le, qui en est à l'origine dans le DNS. S'il y a un serveur au milieu qui pourrait avoir des informations qui font du spoofing ou qui a la mauvaise information dans la cache et qui envoie ça à un solutionneur de validation, donc là, il y aura détection et pour, on, la donnée sera pas authentifiée, donc abandonnée. Si le hacker a contrôle de la machine qui fait l'authentification, la signature, et ça veut dire qu'elle contrôle la machine, oui. Donc là, elle pourrait causer des dommages. Les hackers pourraient causer des dommages. S'ils vont du côté provision où le data entre et qui rentre le data avant que le DNSSEC ait appliqué, donc les mauvaises données seront déjà là et signées par le DNSSEC. Donc le solutionneur de validation ne pourrait pas voir la différence parce que ce serait signé. Et donc la faiblesse est que du côté provisionnement, du côté gauche du triangle, si vous voulez. Et voilà. Ah, au fait, voilà la carte sur l'écran. C'est une carte qui a été mise en place par une compagnie qui s'appelle Shinkura. Et cela vous montre l'adoption, enfin l'adoption du DNSSEC qui se passe du côté des où c'est opérationnel, où cela a été planifié. Il y a beaucoup sur le site, il y a beaucoup d'autres cartes qui sont basées sur les régions. Et il y a des cartes qui sont animées aussi, qui montrent les tendances. Et mercredi, si vous venez à la session de travail du DNSSEC que nous allons mettre en place, vous verrez qu'il y aura plus de détails. Il y a des gens qui sont là, qui sont là d'ailleurs en ce moment, qui parleront des tendances et des statistiques que nous avons. Nous aurons donc une séance plus approfondie là-dessus mercredi. Julia, au micro, si vous ne voyez pas ce graphique, cet organigramme, pour les gens qui ne sont pas dans la salle, nous vous recommandons d'aller voir la présentation pour le DNSSEC, la session de travail de DNSSEC mercredi, parce que cette carte dont nous parlons maintenant n'est pas sur le serveur, sur le Adobe Connect, salon Adobe Connect sur lequel vous êtes à distance en ce moment. Donc, il y aura donc plus, nous parlerons plus de cela dans la session de mercredi. Prochaine question? Oui, je m'appelle Mohamed, je suis du Bahreïn. Je voudrais vous remercier pour ce petit sketch compréhensif. J'ai deux questions à propos du DNSSEC. Quelles parties sont incluses dans les transactions DNSSEC? Est-ce que ça va jusqu'au l'utilisateur final ou aux registreurs qui veulent mettre en place le DNSSEC? Au niveau du utilisateur final, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau ou est-ce qu'on a besoin d'une configuration spéciale, par exemple sur nos ordinateurs? C'est la première question. La deuxième, c'est pourquoi il y a une signature entre la racine et les autres sous-racines, parce que je pense que c'est assez bien défini à l'origine. Donc, comment vous l'avez démontré tout à l'heure, ces racines sont déjà bien définies. Donc, quand l'ISP va vers le .com, pourquoi est-ce que la racine doit signer la transaction alors que c'est déjà bien défini? Si je pouvais répondre à la première question en premier. Le DNS, par nature, si vous vous rappelez les diapos tout à l'heure, commence à partir d'un point et ensuite descend par étapes. Remontons vers la diapositive. C'est l'information, la structure d'information du contenu du DNS. Chaque personne qui exige des informations, qui demande de output DNS, un solutionneur de telle sorte, sait où commencer. Et chaque solutionneur qui fait beaucoup de travail et beaucoup de recherche, ce qu'on appelle de la récrusion, il sait déjà où les serveurs de noms de racines sont. Ils n'ont pas besoin de savoir autre chose. Il y a une boîte simple pour la racine. Il y a d'ailleurs beaucoup plus de machines. Il y a beaucoup de machines qui veulent vous fournir cette réponse. DNSSEC, par design, est fait pour être une partie intrinsèque de DNS. C'est la raison pour laquelle la décision de la signature a été faite. L'équivalence de dire je sais où l'adresse IP du serveur de racine est, je sais quelle est la clé publiée pour la zone de racine est, je sais où elle est. Donc, tout commence par la clé publiée pour la racine et descend vers le bas. Donc, ce doit donc parallèle avec la structure du nom lui-même.
Il y a une réponse plus simple. Monsieur le méchant ici pourrait présenter des signatures. Il peut signer des zones et présenter, et ça aurait cette apparence, mais c'est ce qu'on appelle la chaîne de la confiance globale, de la racine jusqu'en bas. Lorsqu'ils regardent cela, ils peuvent vérifier la signature pour remonter jusqu'à la racine. Donc, c'est pourquoi vous avez besoin de cette chaîne pour que l'attaquant ne vous donne pas quelque chose que lui, il dit que c'est signé. Mais non, ce n'est pas la signature que vous êtes supposé utiliser. Je vais essayer de répondre autrement. J'aurai trois manières d'y répondre. Les signatures numériques utilisent la cryptographie. Vous avez une clé publique et une clé privée. Tout ce qui est utilisé avec la clé privée peut être décrypté avec la clé publique. La clé privée, c'est comme la signature. Lorsque vous allez à la racine, la racine dit « je connais la réponse pour je ne sais pas où est point, 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 point. » Big Bang se trouve, mais je sais où se trouve .com. Voici la clé publique et voici ma signature qui dit que c'est correct. Pourquoi est-ce que le serveur de racine ne donne pas les adresses IP? Pas avec la clé signée, parce que le service .com sont bien définis. .com, .org, .org, etc. Il y a beaucoup de TLD différents, donc ceux qui sont .com sont bien connus, mais lorsque vous lancez un nouveau TLD, ce n'est pas connu. Il faudra avoir un pool de ceux qui sont bien définis. Il y a des millions et des millions et des millions de solutionneurs et une seule zone racine. Mais 13 adresses, en fait. Ainsi, les millions et les millions de solutionneurs ne doivent connaître qu'une série d'adresses. Ils n'ont pas besoin de savoir 100 ou 1000 ou 1 million. Il y a plus d'un million de zones, bien au-delà d'un million de zones, puisque les solutionneurs ont déjà dû savoir où se trouvait la racine. Il n'y a rien qui vous empêche, de même, d'avoir d'autres clés que vous connaissez et vous n'avez pas besoin de valider. Si vous faites confiance à ces clés, si vous êtes une entreprise ou un pays et que vous voulez avoir tous les solutionneurs de votre pays ou de votre entreprise à avoir la partie des informations publiques, de la clé publique, vous n'avez pas besoin d'aller au-delà de votre environnement. Vous pouvez rester être prouvé à partir de là, mais plus ça grandit, plus c'est complexe. Donc, si on garde cela et on garde ça petit dans la zone racine, on a pensé que c'était meilleur pour l'Internet global. Mais cela n'empêche pas ce qu'on appelle des ancrages de confiance pour des zones, des régions plus petites. Vous pouvez répéter la première question? Je posais des questions sur quelles parties sont impliquées dans les transactions DNSSEC? Est-ce que ça va jusqu'à l'usager final? La politique est toujours importante et c'est à quel donc on doit parler des politiques. Il y avait beaucoup d'arguments très tôt pendant les activités DNSSEC. Est-ce qu'il y a un besoin d'avoir une politique générale commune? Et la conclusion pour le design technique de ITF, ils ont dit non, on va vous dire comment faire toutes les protections cryptographiques, mais la déclaration ou la, pour savoir quelle doit être la politique par-dessus, portant là-dessus, c'est va au-delà de la définition technique. Il y a quelques nombres, surtout dans la zone racine et des CCTLD, qui ont émis des affirmations de politique. Notre signature dans notre zone veut dire cela et cela va être opéré de cette telle manière, mais ce n'est pas une nécessité absolue, intrinsèque, d'avoir la signature DNSSEC. La réponse parfois est plus complexe pour tout en ce qui contient les actuellement la machine des usagers finaux ne font pas grand chose avec ces informations, mais la machine des usagers va finir par s'impliquer et la part DNSSEC aura lieu dans votre machine. Vous voyez qu'il y a des gens qui intègrent la résolution dans l'application, donc il y a des gens qui font de la validation DNSSEC à l'intérieur des applications et d'autres voient comment l'ajouter au système d'exploitation. Et donc, on voit pour le moment, c'est les ISP qui en font une grande partie. Avec le temps, ce sera relégué au système d'exploitation.
David Marston, de Nouvelle-Zélande, de registre Nouvelle-Zélande. Nous fonctionnons avec DNSSEC. Nous avons à peu près 4% des registraires qui offrent du DNSSEC. DNSSEC est en place pour de bonnes raisons. C'est pour le... quand le registraire... on va avec la demande. Je suis intéressée de voir quel genre de choses ont été faites pour aider à éduquer la population générale pour qu'il y ait plus de demandes, pour que les registraires comprennent le besoin d'implémenter, de mettre en place le DNSSEC. Je vais répondre à ça parce que c'est un programme avec lequel je travaille. Nous essayons de faire cela. Nous essayons d'amener plus de demandes. Donc, durant l'année dernière, durant un an et... Vous avez raison, il y a... C'était la situation de la poule et de l'œuf. Nous avons besoin qu'il y ait plus de demandes. Nous avons ce problème toujours. On dit pourquoi est-ce que je devrais valider le nom, avoir de la validation, il n'y a pas de demande. De l'autre côté, il y a des gens qui disent pourquoi je devrais signer ma zone puisqu'il n'y a pas beaucoup de solutionneurs sur place. Donc, mes collègues ici sur le podium ont beaucoup aidé pour cela. Et vous aussi, d'ailleurs, Google, et le fait que Google encourage cela. Google pense que si Google pense que c'est important, ils vont penser que c'est important pour eux aussi. C'était une bonne étape. Cela nous a beaucoup aidé. J'ai vu que le trafic a augmenté depuis. Une des choses que nous entendons dans notre... que nous entendrons d'ailleurs, nous allons en parler dans notre atelier de travail mercredi. On va entendre parler les gens qui utilisent, on va parler de DARNE, D-A-R-N-E. C'est une... Ça l'a fourni une autre couverture de responsabilité. En fait, vous voulez que les gens utilisent cela et nous pouvons ajouter une autre couverture, une autre couverture de confiance en utilisant le DNSSEC. Et il faut donc amener plus de demandes, il faut donner plus de validation et de dire aux gens pourquoi ils doivent le faire. Au-delà de cela, nous, les gens ici et d'autres, beaucoup d'entre nous travaillent sur les manières pour nous amener plus de demandes, pour qu'il y ait plus d'intérêt au niveau d'exécutifs, au niveau des ingénieurs, pour qu'il y ait plus de formation, donner plus d'outils pour provoquer cette demande. C'est beaucoup mieux, c'est devenu plus simplifié. Vous savez que nous pouvons juste utiliser une ligne au dossier config. Il y a des combinations de choses qui se passent pour que les choses soient plus simplifiées, pour que nous puissions faire passer le message, pour montrer que c'est important et pourquoi. Donc ça vient, ça vient. Je pense que c'est une très bonne question. Pourquoi nous devons continuer à nous poser ces questions. Nous avons beaucoup de gens ici qui étaient engagés pour essayer de générer une demande. Et honnêtement, c'est une des raisons pour laquelle nous avons démarré cette session. C'est pour essayer d'aider les gens à comprendre pourquoi est-ce que je veux faire cela. Donc voilà, comme ça vous pouvez comprendre pourquoi vous pouvez avoir la fumée bleue pour arriver à trier les messages. Si nous continuons à travailler pour des gens, pour les gens et l'expliquer aux gens qui ne comprennent pas vraiment ce que l'INSA, comment cela fonctionne, je pense que cela aidera les gens à comprendre que ça rend les activités, leur activité sur Internet beaucoup plus sécurisée. Oui, je voulais juste dire, la République tchèque a eu beaucoup de succès, beaucoup de réussite avec cette mise en place. André est ici, il pourrait vous en parler. Les gens de Sidon, SIDN est là aussi, ils ont fait beaucoup de travail, ces gens-là, en Hollande. Les gens de les Suédois aussi, avec .se, ont fait beaucoup de travail là-dessus aussi, donc dans tous ces endroits. Si vous voyez ce qui se passe un peu autour de moi, ils ont travaillé des deux côtés, surtout la République tchèque et la Suède. Ils ont fait beaucoup, et en Hollande aussi, ils ont fait, Pays-Bas, ils ont beaucoup d'ISP qui ont fait de la validation. Ils ont travaillé aussi sur l'augmentation des authentifications. Il y a ce monsieur, j'ai Julia au micro, j'ai ce monsieur là aussi. Bonjour. Merci beaucoup. Je suis Le Jouet de Cynic. En tant que registre, Cynic a annoncé qu'il allait appliquer le DNSSEC dans l'avenir proche. Ce que je voudrais que vous puissiez nous donner des conseils pour qu'on fasse moins d'erreurs lors du déploiement du DNSSEC. Dans les premières étapes du déploiement de l'IDLSEC, peut-être dans le processus de déploiement du DNSSEC et ensuite du côté des opérations. Oui, je pense que je peux répondre à votre question. Ce dont vous parlez, c'est la validation pour vous être sûr que ce que vous faites est à 100% bon. À .ca, nous avons passé beaucoup de temps à développer des solutions autour de ce sujet. Nous avons appris beaucoup de nos leçons avec les CTTLD qui sont sortis en premier. Nous avons fait quelques erreurs ici et là. Et nous avons défini des spécifications assez avancées, fonctionnelles, du comment nous devrions mettre en place le DNSSEC pour nous assurer que cela soit adéquat. Aujourd'hui, il y a beaucoup de technologies de signature, il y a plein d'autres alternatives. À la fin, nous sommes venus avec une technologie double. Une zone de signature avec un logiciel de DNSSEC et nous validions les informations qui en sortent pour nous assurer qu'aucun des logiciels que nous ne connaissons pas vraiment a fait une erreur. Il n'y a pas une seule Si vous validez avec deux technologies, les chances que vous ayez le même bug deux fois sont vraiment faibles. Cela est disponible en ligne. Vous pouvez aller voir, il y a une présentation là-dessus. Vous pouvez choisir, vous pouvez regarder l'architecture de notre solution. En fait, c'est ça. Vous devez passer beaucoup de temps pour vous assurer que vous signez de bonne manière, de bonne façon, et ensuite vous pouvez regarder et vérifier la validation. Nous faisons 16 tests différents pour nous assurer que les signatures sont valides, qu'elles ne sont pas expirées, que les records ne sont pas, les dossiers ne sont pas éliminés par erreur. Nous avons passé 6 mois dessus. Nous avons trouvé des bugs dans les DNS à couvert que d'autres gens n'avaient pas découvert parce que, si vous voulez, nous pouvons en parler. C'est très important que vous passiez du temps sur vos validations avant de commencer. Une des choses que je voudrais suggérer que Jacques n'a pas mentionné, les machines que vous allez utiliser pour faire la validation de ce qui est produit par votre mécanisme de signature, vous devriez aussi faire des zones de test contre le validateur qui ont des informations mauvaises de façon intentionnelle, de façon à ce que vous puissiez identifier cela. La première étape serait que votre validateur fonctionne bien et vous faites cela en lui envoyant des données qui sont mauvaises. Vous savez que ces données sont mauvaises. Il y a des outils pour faire cela. Donc, votre validateur, vous savez qu'il va opérer, il va être opérationnel. Des testings rigoureux. Je pense que c'est le message que nous voulons faire passer et planifier pour les problèmes contingents. Willy Sakaf du Yémen, je mets en place des technologies et ce qui m'intéresse, c'est de comprendre la détection des headers, disons, quand le trafic commence. Les headers sont en général très simples au départ. Je pense que là, il y a de la vulnérabilité pour le DNS. Est-ce que vous avez pensé à encrypter les headers de façon à maximiser le potentiel des abus, des normes, disons, à côté de la certification que vous faites déjà, peut-être une courbe pour le DNS qui pourrait être introduite. Désolée. Nous avons...
J'étais président du groupe de travail lorsque DNSSEC a été standardisé et la confidentialité était spécifiquement une non-exigence. On a décidé de ne pas travailler là-dessus parce que la donnée DNS était publique, transmise pour l'éternité et c'était une non-exigence. Également, les mécanismes de confidentialité, de protection de la vie privée. Le mécanisme également offre des mesures de contrôle. Il y a plusieurs manières d'assurer la connexion entre le résolveur et le système local. Donc, on peut en parler hors ligne également. Les ordres solutionnaires. Bonjour, je m'appelle Dasha Barinova de Russie. 2 questions sur la mise en œuvre de .ru. Quelles sont vos impressions sur le succès, combien ça a duré, si c'était coûteux, et sur la mise en œuvre? Je regarde le statut DNSSEC pour aujourd'hui et il montre que la Chine est en phase expérimentale. Qu'est-ce que cela signifie et combien de temps ça va leur prendre pour le mettre en œuvre? Vous pouvez comparer ces 2 expériences. Je ne connais pas l'historique de Chine, mais c'est en phase expérimentale depuis longtemps parce qu'ils travaillent sur plusieurs choses. Mais mercredi, vous entendrez une présentation sur leur plan.
Il y aura une diapositive que vous pouvez avoir. Ils parleront spécifiquement de leur plan à venir et vous pouvez parler à ce monsieur en avant, en plus en détail. Sur la carte elle-même, les différentes gradations des stages, des différentes phases, beaucoup de la complexité et du temps impliqué va changer. Jean-Jacques a parlé des mois de questions-réponses et le travail qu'ils ont fait là-dessus. C'est pomme et orange, c'est difficile à comparer en raison de la dimension des zones, l'équipement, les politiques et les procédures. On ne peut pas faire une comparaison facile là-dessus en raison de ceux qui s'y trouvent. Jean-Jacques, à vous. Ça a pris un an pour signer .ca et notre admin a pris 20 minutes pour signer 0.ca. Je ne connais pas les spécificités de .ru, mais je sais que ça a été signé récemment. Je connais bien la carte et la méthodologie de collection, de collecte. J'ai travaillé de près avec Shokuro sur ce projet. Les données collectées, c'est vraiment par des bénévoles. Les gens demandent dans quelle étape vous vouliez investir vos efforts. Il y a des paramètres descriptifs si vous faites ceci. Alors, vous êtes probablement là. Donc, les spécificités, quant à la durée que cela prend, une étape particulière relève totalement de l'entreprise. Et quant à la collecte des informations, ils demandent lorsque vous pourrez passer la prochaine étape. Parfois, les gens ne disent pas. C'est les pommes et les oranges, même si ça a la même couleur sur la carte. C'est des choses indépendantes et à part. Donc, c'est difficile de faire une comparaison quantitative, à l'exception que sur cette carte, une fois qu'ils sont dans le vert, c'est là que nous pouvons valider que nous savons parce que les dossiers sont publiés. Je ne peux pas vous donner une meilleure réponse, malheureusement. Je m'appelle Baha Toman de Palestine. Je m'appelle Baha Toman de Palestine. Je ne vais pas parler de la durée de signature. Est-ce que ça peut être mesuré? Donc, la durée de vie de la signature, c'est ce que vous posez comme question. À l'intérieur de chaque signature, il y a une date d'expiration insérée dans la signature. Donc, il y a un document qui a été publié récemment qui souligne ces meilleures pratiques. Et cela varie. Souvent, les gens vont publier pour voir les différentes clés, les différents types de choses, mais la clé utilisée pour les données de zone, c'est peut-être pendant un mois ou trois mois. Et il y a une autre clé qu'on utilise pour signer d'autres qui peuvent durer un an. Il y a un document que on peut vous orienter là-dessus et vous verrez les recommandations spécifiques. Ça s'appelle les directives version 2 de l'opération de DNSSEC. RSC, voilà, vous y trouverez donc les recommandations. Je m'appelle Nicolas, je suis dans le programme des boursiers également. Je suis curieux de savoir l'algorithme d'inscription pour la poignée de main ou l'amalgame. Est-ce que c'est Diffie-Hellman? Est-ce que c'est un logarithme discret ou une factorisation, etc.?
on peut, encore une fois, aller dans vraiment les détails, mais il y a plusieurs algorithmes qui sont autorisés. Et nous avons défini 5. C'est quelque chose dans le genre, mais c'est la cryptographie Diffie-Hellman. Je ne peux pas les nommer tous, mais il y a plusieurs de variations SHA, RSA, et il y a un GHOST. Je crois que c'est tout. RSA, RSA, GHOST et TSA. SHA 2 ou 3 SHA? SHA 1 et SHA 3. SHA 3? SHA 1, 2 et 256. Vous pouvez les trouver dans les RSC. Et c'est configuré pour que vous puissiez ajouter des protocoles additionnels avec le temps. Et M. Olof le saura.
Je vous ai entendu dire poignée de main. Il n'y a rien. Non, je voulais juste clarifier que je fais une signature, je communique quels sont les paramètres que j'ai utilisés pour faire cette signature et je m'attends à ce que le client valide. Il n'y a pas de poignée de main, il n'y a rien. En partie de la signature, dans la signature de DNS, c'est là où l'on peut mettre l'utilisation de l'algorithme. Le validateur sait exactement quel est l'algorithme. Il y a des gens qui travaillent sur certains qui font de la photographie de courbes. Il y a aussi d'autres algorithmes qui seront ajoutés. Thomas Registrer allemand pour les structures privées et publiques. C'est très important que les secteurs privés. Je voudrais savoir qui est en charge, qui est responsable de la clé racine. Et si la clé racine est compromise, est-ce que tout le DNSSEC, processus de DNSSEC de résolution, rentre qui est responsable? Il y a une approche très bien documentée, très bien publiée, qui décrit tout cela. ICANN est l'entité fondamentalement en responsable des clés de la zone de racine, mais il y a un grand nombre de personnes de la communauté qui doivent être présents lorsque quelque chose est fait en respect de la clé de la racine. Il y a beaucoup de protection de disques durs, de protection physique, de redondance. Il y a beaucoup de documentation là-dessus. Vous pouvez aller en ligne et voir, lire les archives sur les activités de signature de clés. Il y a un rôle dans les mécanismes de l'ICANN qui aide et qu'il n'y a pas de compromis. Que tout cela ne soit pas compromis. C'est un point simple d'échec. Si cette clé est compromise, nous aurons un gros problème. Il y a plus d'inquiétude que la clé soit détruite par accident. C'est une inquiétude. S'il y a deux HSM, que cette clé soit détruite. Mais il y a beaucoup aussi de discussions en ce moment. Comment nous gérons la clé racine? RSC 5011 en fait partie. Cela n'a pas encore été testé en pratique. Donc, en théorie, beaucoup de gens se rassemblent, génèrent une nouvelle clé. Mais cela n'a pas été encore testé de façon pratique. Donc, il n'y a pas vraiment de façon de comprendre. Est-ce qu'on doit attendre que quelque chose de très mauvais se passe ou il n'y a pas de politique autour de ça? Je pense qu'il y a une discussion actuelle en ce moment. Il y a deux aspects En premier, pour répondre à votre question, les documents dont on parlait, dont Ross parlait, si vous regardez en ligne pour le DNSSEC, les politiques, les déclarations de politique de DNSSEC, vous trouverez les politiques qui sont déjà en place. Les TLD qui sont signés ont déjà publié leur propre DPS qui déclare exactement ce qu'il y a là-dessus. Si vous allez voir sur DNSSEC.com, je pense que c'est route.dnsec.com. Si Joe Abley était là, il pourrait me le dire. Tout cela est déjà là. Les gens qui cherchent, qui veulent savoir comment signer leur CCTLD, allez voir les déclarations de DNSSEC, parce qu'il y a des documents qui se réfèrent exactement à cela. Quand il s'agit de la consultation, ICANN a une annonce pour commentaires publics et ça commence vendredi le 12 avril, c'est le dernier jour des commentaires. Ils ont besoin d'informations et de suivi. Cela va vers toutes les meilleures pratiques. Il y a la clé pour signer la clé qui saigne à la clé qui sont utilisées pour les clés de zone qui sont utilisées pour signer les data courants. Il y a donc des niveaux de protection. Ces cérémonies de signature de clés sont changées tout le temps, comme disait Ross tout à l'heure. La clé au cœur de tout cela, je ne peux pas, en tant que... Ce doit être lancé durant les premières cinq clés. C'est cinq années, c'est sous discussion en ce moment, c'est... ICANN veut vous entendre, veut entendre vos commentaires là-dessus. Ils ont mis en place cette consultation. Vous pouvez aller sur le site ICANN si vous voulez faire des commentaires. Pour la session de mercredi, dit Julia, il y a... Oh, j'allais... Julie, je voulais aussi vous dire que ICANN et Yop Ockerhaus du conseil Yop, levez la main, parlera de ce problème. ESSAC aussi consulte sur ce problème et ils rejoindront donc la discussion mercredi. Je pense que ce sera intéressant. Je pense que si vous êtes intéressé, vous devriez y venir. Nous avons déjà dépassé les délais de cette session. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait la dernière question avant que nous fermions cette session? Ross, merci. Beaucoup de très bonnes questions, très bonnes interactions. Merci beaucoup à tous. Si vous avez besoin de plus d'informations sur le DNSSEC, on commence à 8h30 mercredi matin. Très de bonne heure parce que nous avons une très grande journée de planifier. Si vous avez donc encore plus de questions, venez mercredi. Merci. Julie dit lunch, il y aura déjeuner le mercredi, mais vous devez venir participer durant la session pour avoir le lunch, le déjeuner.